Allez, vous êtes sur RTL Réunion, nous sommes avec notre invité, Yannick Pitou et Johanna Martin, donc le docteur Michel Spodenkiewicz. J'espère que je prononce bien, bonjour à vous.
Bonjour docteur.
Bonjour, vous prononcez parfaitement mon nom.
C'est gentil, merci beaucoup.
Alors vous êtes pédopsychiatre au pôle santé mentale du CHU Sud. On va vous poser d'abord une première question tout à fait légitime. On avait déjà accueilli une psychologue en début de confinement, mais c'est vrai qu'on continue à se poser la question maintenant, alors qu'il y a presque 2 mois d'écoulés. Quels impacts, parce qu'il y en a sans doute plusieurs, du confinement chez les enfants, des plus petits aux plus grands?
Alors, pour ce qui est des impacts, ils sont assez variables en fonction des situations dans lesquelles vivent les enfants. On se rend compte que... pour une majorité d'enfants, le confinement a quand même généré beaucoup de stress qui se traduit de manière différente aux différents âges de la vie. Il y a quand même une petite proportion d'enfants, et je pense que c'est important de le signaler, pour lesquels qui vivent très bien ce confinement, qui sont contents d'être confinés et qui profitent de ces moments parce que leurs parents sont peut-être un peu plus disponibles, parce que au niveau de l'école, les enjeux sont moins importants.
Mais est-ce que ce n'est pas une façade?
C'est une minorité d'enfants, hein, j'insiste, ouais. Parce que globalement, l'impact est plutôt négatif sur le plan psychologique. On voit par exemple des troubles du sommeil qui sont plus importants. On voit aussi pas mal d'enfants qui régressent au niveau de leur comportement. Parfois, ils avaient acquis la propreté, je pense, en plus petit, et puis là, ils recommencent à faire petit pipi au lit. Ils vont pleurnicher davantage. Donc, globalement, oui, on voit qu'il y a un impact négatif. Les données arrivent un tout petit peu au fur et à mesure. Il y a d'ailleurs, je pense peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler, oui. Une étude que nous lançons au niveau du CHU de la Réunion, Confinaou. C'est un questionnaire qui va être envoyé à tous les Réunionnais. Il sera consultable sur Facebook, sur le Facebook du CHU. Il est déjà en ligne. Et il nous permettra de savoir exactement qu'est-ce qu'il en est à la Réunion. Parce qu'on a nos premières impressions, c'est celle dont je vous ai parlé, l'impression que le stress est quand même important à la Réunion, même si une minorité s'en sort bien. Mais pour connaître plus ces détails, il nous faudra des études et probablement que les résultats, on les aura qu'avec quelques semaines de recul.
Cette étude n'a pas encore été lancée, elle est prévue pour quand? Et elle sera diffusée uniquement sur les réseaux sociaux?
Non, elle va être diffusée de manière beaucoup plus large. Elle est justement lancée aujourd'hui. Donc, d'ores et déjà, sur le site Facebook, il y a une page Confinaou. Elle va être relayée sur le site du CHU de la Réunion, probablement dans la journée. Et il y aura une communication beaucoup plus large. Donc, vous avez la primauté de la nouvelle, même si celle-ci va être diffusée. C'est vraiment une étude importante parce que on voudrait comprendre et connaître comment ça se passe, comment se passent les choses à la Réunion, mais de manière plus globale. On a chacun dans notre milieu des expériences, des retours d'amis, de collègues, mais je pense qu'il y a une certaine partie de la population pour lesquelles c'est un peu une inconnue, et donc comme ça nous permettra d'avoir une photographie de ce qui se passe pour l'ensemble de la population.
Il faudra que les parents se connectent sur le site du CHU, si je comprends bien, qu'ils répondent à un questionnaire.
Exactement. D'accord. Exactement. Et comme ça, on comprendra mieux comment se passent les choses. Là, pour l'instant, les données que je vous donne sont celles de ce qu'on constate en métropole et puis aussi des retours de la consultation. En nous voyant effectivement beaucoup de patients, parfois il y a des patients qui sont un tout petit peu plus vulnérables de base parce que ils ont ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux. Et pour eux, on voit qu'effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup, beaucoup plus de stress. Il y a aussi beaucoup plus de symptômes. Je pense, par exemple, aux patients qui ont des troubles consécutifs à l'alcoolisation fœtale, qui ont déjà du mal à réguler leurs émotions. Et ben là, on voit que là, c'est vraiment très, très dur.
On a beaucoup, beaucoup de questions à vous poser. On a envie de parler des conseils que l'on peut donner aux parents pour leurs enfants. On a envie de parler aussi des enfants qui reprendront bientôt le chemin des écoles. On va aborder tous ces points avec vous, puisque vous nous accordez encore de longues minutes. Et vous avez accepté aussi de répondre aux questions des auditeurs. Et ça tombe bien, puisque sur le standard, on a Frédéric qui aimerait vous en poser une.
Frédéric, c'est à vous. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour messieurs, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Oui, voilà, ça aurait été pas vous poser une question. Vu que j'ai une enfant qui est en classe Ulysse, en sixième, et donc par rapport à tout ce qui vient de se passer là, et à la reprise de l'école que bientôt...
à partir du 18 mai.
Voilà. Et en tant que professionnel, on voudrait avoir un conseil. Et en plus que ça, bon, dans les informations, malentendu que, bon, il y en a le truc de l'hôpital de Necker. Je ne sais pas si vous avez entendu.
Bien sûr, oui, oui, je pourrais vous en parler.
Donc, voilà. Et par rapport, bon, mon enfant, elle est fragile. Hein, et elle a une céphalite aiguë. Mm-hmm. Et elle a 14 ans et 13 ans. 13 ans dans 6e. Et donc, mettez vous voulez savoir un peu, bon...
vous avez l'intention de la déposer à l'école, vous, Frédéric, lorsque ça va reprendre?
Veuillez m'excuser, M. Pitou, mais l'ordre de cœur.
Oui. Pour l'instant, vous n'avez pas fait le choix.
C'est, ouais. Non, mais parce que quand vous savez que votre enfant, quand le docteur dit qu'on est, c'est que la maladie, ou ça, oui. Mon enfant l'a passé, et ou ça, nous aussi, nous l'a passé. Et nous passe toujours.
Et vous pourrez la garder à la maison si jamais vous décidez de ne pas la ramener à l'école, la redéposer à l'école, vous pourrez vous organiser.
Oui, pas de problème ça. Ah, mais seulement, c'est une question, c'est que pour le retour à l'école.
Oui,
En ce moment, il fait des classes ULIS, mais en même temps, il retrouve à lui en classe
ordinaire,
en sixième normale.
Tout à fait. Eh bien, c'est vrai, Frédéric, et on va écouter la réponse du docteur. On voulait justement aborder avec lui cette question déjà globale du retour à l'école. Et pour les publics les plus fragiles en particulier, ben, on va demander au docteur Michel Spodankiewicz ce qu'il en pense.
Eh bien, déjà, je vous remercie pour votre question et je vous remercie pour votre prudence parce qu'on voit qu'il y a finalement... soit des parents qui sont parfois très optimistes et qui disent « il faut qu'ils retournent à l'école, ça va bien se passer », soit d'autres qui sont hyper inquiets, qui disent « ils ne sont pas inquiets ». Mais finalement, il y en a assez peu qui sont comme dans votre cas, et je trouve que c'est l'attitude probablement la plus prudente, c'est de dire « je vais voir, je vais essayer de me renseigner ». Alors, je dirais que beaucoup de choses dépendent de la manière à la fois dont votre enfant vit le confinement, c'est-à-dire comment actuellement ça se passe, est-ce que c'est stressant? Est-ce que il y a des problèmes de sommeil? Et puis aussi, en fonction de ce qui va être proposé dans son établissement scolaire, dans le collège. On sait que là, les enfants qui sont en ULIS, ce sont les enfants à besoins spécifiques dont j'avais évoqué, dont j'avais parlé. On sait que pour eux, ce temps d'adaptation peut être un tout petit peu plus délicat. Et donc, mon sentiment, et je vais pas prendre la décision à votre place, mais je pense que se renseigner sur ce qui va être proposé à l'école, c'est probablement c'est l'élément qui va vous permettre de vous décider sur le fait de l'orienter ou non. Maintenant, en ce qui concerne la sécurité des enfants, puisque vous évoquiez, pour l'instant, les données sont plutôt rassurantes. J'ai aussi entendu de ce qui s'est passé à l'hôpital Necker. J'ai même échangé avec des collègues de là-bas. Il faut quand même garder à l'esprit qu'il s'agit de situations, pour l'instant, de ce qu'on sait, très rares. C'est les fameuses myocardites qui surviennent. Et il ne s'agit pas de formes graves, mais il s'agit de formes qui se soignent bien. Donc il ne s'agit pas de formes sévères comme on le voit chez les adultes qui nécessitent un passage en réanimation. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas trop s'affoler sur avec la perspective du retour à l'école en se disant « Ah, mais il y a cette histoire de myocardite, il vaut mieux qu'il reste ». Après, si votre enfant vit bien le confinement, si elle se sent bien, si vous avez pu vous organiser aussi au domicile pour la garder, il y a aussi je pense aussi une forme d'altruisme, mais il ne faut pas aussi culpabiliser, parce que j'entends un discours parfois de dire « Ah, vous ne voulez pas remettre les enfants à l'école, c'est pas bien ». Non. Je pense qu'on a le droit d'être prudent. Si on a les conditions qui permettent de garder son enfant et de se dire « je vais attendre et voir », ben c'est peut-être l'attitude la plus raisonnable.
Est-ce que vous auriez une réponse à me donner sur les infirmières des écoles? Est-ce qu'elles seront formées, par exemple, pour... vous voyez, c'est un nouveau cas qui vient de se présenter. Et donc, bon, ben, dans les écoles, on a toujours une infirmière, on a toujours une personne. Mais est-ce que... je pense que peut-être que dans des nouveaux cas... il faudrait peut-être que les infirmières aussi, bon, ben là, ils soient connectés aussi sur le truc. Parce qu'avant de faire une ouverture, moi, j'habite sur une ville, on va dire, bon, ben, Madeau-Sainte-Marie. Bon, peut-être qu'il n'y a pas de cas, mais seulement, mais pas, peut-être pas tout seul, hein, parce qu'il y a d'autres enfants qui se trouvent dans divers établissements de l'île, qui voudraient savoir, mais maintenant, est-ce que Nena...
est-ce que l'école est prête? C'est un peu ce que vous... Oui. C'est votre inquiétude à vous, ça.
Mais il faudra se baser là-dessus, justement. Voilà. Il faudra se baser sur les renseignements que vous obtiendrez.
Pour ces enfants fragiles, pour ces enfants qui sont en fragilité,
Vous avez gardé contact avec votre établissement, Frédéric?
Oui.
Ben, il faudra leur poser la question et vous prendrez votre choix à ce moment-là, comme disait le docteur. Hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
Et on a que les renseignements par rapport avec les profs.
Oui. Oui.
Mais on n'a pas de renseignements directement avec. C'est ça aussi un petit
c'est
peu.
C'est sûr
le
que c'est
problème.
Le doute qui s'installe et c'est ça la difficulté. Frédéric, restez à l'écoute. En tout cas, on va continuer à parler de ce problème ensemble. Et tenez-nous informés pour votre fille. On lui souhaite et on vous souhaite à tous bon courage. En tout cas, c'est sûr que c'est compliqué. Et je pense, on va reprendre avec le docteur. Je pense, docteur, que finalement, c'est le doute surtout qui occasionne de nombreuses difficultés dans l'esprit des parents en ce moment. Et la question toute simple que je voulais vous poser... elle est assez directe, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais est-ce que vous êtes pour ou contre le retour à l'école des enfants?
Alors, c'est vrai, c'est une question très directe. À titre, pour le coup, personnel, j'y suis globalement favorable. Mais je suis favorable au fait qu'ils y retournent parce que je vois les conséquences négatives qui s'installent aussi des enfants et qui... Je vois beaucoup d'enfants dans des situations de plus grande fragilité, vulnérabilité, aussi des situations de maltraitance. Donc, je vois dans ma consultation les conséquences négatives de ce confinement et je vois l'intérêt qu'il y a aussi pour les enfants de se resocialiser. Et compte tenu des informations qu'on a sur un risque qui, on n'a pas toutes les infos, mais qui reste relativement faible, de contamination entre les enfants, de cas de symptômes chez les enfants, je pense que les avantages à rescolariser les enfants l'emportent sur...
C'est le bénéfice, avantage-risque hein, qui est...
C'est ça, exactement. Mais je sais qu'individuellement, c'est très difficile de répondre parce qu'il y a des fois où le confinement est bien vécu et je comprends aussi que par mesure de sécurité, certains parents se disent « je vais attendre ». Un peu comme ce papa, je vais voir comment ça se passe à l'école. Je vais peut-être, pour les enfants, et je pensais aussi à ce monsieur, consulter, parce que j'imagine que sa fille a un suivi, en discuter avec le médecin pour éventuellement pouvoir rapprocher les consultations dans cette période qui va être un peu délicate pour qu'il y ait un suivi plus important. Et du coup, c'est assez prudent de voir les choses. Donc oui, j'y suis favorable, mais avec beaucoup de prudence. Oui. Et pour ceux qui auraient la possibilité de le décaler, je me dis aussi que c'est une forme d'altruisme de dire on ne va pas tous envoyer nos enfants en même temps. Aidons aussi les écoles, parce que les établissements ne sont pas tous égaux. On sait qu'il y a des établissements qui sont tout petits, on y va, c'est tout confiné naturellement. Il y en a d'autres qui ont plus de place. Mais on se dit peut-être que... en contactant l'établissement en disant « Est-ce que moi, j'ai la possibilité que mon enfant attende un tout petit peu? Est-ce que vous êtes OK pour ça ?» Mais en restant en lien, et ça, je rejoins un peu le conseil que vous donniez, il faut rester en lien. C'est bien pour nous parce que ça nous rassure. Si ça nous rassure, ça va rassurer nos enfants. Et d'une certaine manière, ça va permettre aussi à diminuer ces effets négatifs dont on parlait un tout petit peu en début d'émission.
Alors, nous sommes sur RTL Réunion et nous sommes avec le docteur Michel Spodankiewicz. Il est pédopsychiatre au CHU de Saint-Pierre. Nous parlons effectivement des impacts du confinement sur les enfants. Et il y a un autre auditeur, Patrick, sur le standard, qui aimerait vous poser une question. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour docteur. Je voulais parler du syndrome Kawasaki que je vois que depuis quelque temps, hier j'ai été sur une chaîne nationale et je vois que ça inquiétait beaucoup les médecins et les pédiatres parce que ça touche peu des enfants, je crois, en France. Et beaucoup de pédiatres pensent que peut-être c'est une variante du coronavirus parce que ça touche, je crois, le système cardiaque, les poumons, tout ça. Et est-ce que demain, si ce syndrome Kawasaki de se répandre dans toute la France, est-ce que le gouvernement décidera pas à un certain moment de refermer les écoles et de refaire un confinement? Et c'est ça la question que je me pose aujourd'hui, parce que ça inquiète beaucoup. Il n'y a pas qu'en France. Je crois que dans beaucoup de pays, les enfants sont touchés par ce syndrome-là. et je crois que
l'on appelle aussi choc toxique. Bah, la réponse du docteur Patrick, restez en ligne.
Oui. Alors, je resterai assez prudent, je suis pédopsychiatre, n'étant pas moi-même pédiatre, mais infectiologue, je me garderai de m'avancer trop, surtout qu'on sait à ce jour relativement peu de choses, et c'est pour ça que ce qu'on dit parfois aujourd'hui et ce qui est dit 3 jours plus tard,
ça varie.
Différent. Ouais. Ça varie, donc j'entends la prudence. Maintenant, il faut savoir que le syndrome de Kawasaki, donc c'est une maladie inflammatoire, qui survient principalement chez les enfants les petits, ceux de moins de 5 ans. Effectivement, c'est quelque chose qu'on connaît bien, qui se soigne. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas non plus d'informations sur une vague qui toucherait tous les enfants autour de ce fameux syndrome. Mais effectivement, il va falloir être vigilant. Et je ne suis pas à la place du gouvernement, encore moins de l'ARS, qui est au courant de ces choses-là, donc il faudra effectivement suivre l'actualité. Mais dans tous les discours que j'ai entendus, il y a cette histoire de progressivité et de prudence, et je pense qu'il est possible que de faire un tout petit peu machine arrière si jamais on se rendait compte que ça avait des conséquences négatives pour les enfants. Mais j'ai assisté aussi à certaines discussions qui ont lieu actuellement pour savoir si on réouvrait ou non, et j'ai vu que et tout le monde reste très 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 prudent et vraiment on essaye de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc moi je dirais que je ne crois pas que ça change la donne par rapport à ce qui est de ces perspectives d'ouverture, mais encore une fois je pense qu'il va falloir rester très à l'écoute aussi des agences de santé pour savoir un peu qu'est-ce qu'il en est de ces
rester attentif finalement et s'informer, hein. C'est la responsabilité des parents en ce moment. Patrick, c'était la réponse du docteur. On espère que vous avez eu réponse à votre interrogation. Et comme il l'a dit, il faudra suivre ce qui va se passer avant tout. Merci pour votre question, Patrick. Oui, à bientôt, Johanna Martin. Une question, vous aussi, à poser au docteur.
Oui, docteur, une enseignante me faisait part de cette réflexion. C'est vrai qu'au début de l'épidémie, les enfants étaient particulièrement visés parce que asymptomatiques et parce que conducteurs du virus plus que les autres. Il y a eu un focus fait sur les enfants au début de cette épidémie. Alors, on ne les accusait pas d'être dangereux, mais certains enfants, semble-t-il, l'ont pris comme ça, parce qu'on leur disait que ils portaient le virus, qu'ils n'en avaient pas les symptômes et qu'ils pouvaient rendre les gens malades. Est-ce que vous constatez des inquiétudes autour de ce problème-là et de comment a été abordée la crise avec eux au tout début?
Oui, ben merci beaucoup de soulever ce point. C'est vrai qu'on a vu une forme de stigmatisation. Les enfants étaient perçus presque comme des bombes, quelque part, et qui disséminaient la maladie avec l'idée... Heureusement, les résultats d'études à l'heure actuelle vont dans le sens d'une très 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 faible contagiosité des enfants entre eux et même sur le fait que les enfants ne seraient pas vecteurs de ce virus. Mais vous voyez, on voit aussi l'impact d'informations parfois qui génèrent de l'inquiétude et qui entraînent une espèce de peur collective. Cette peur collective se transmet, puis comme on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu, on se dit, il y a peut-être quand même quelque chose, donc s'il y a peut-être quelque chose, je vais éviter, et ça prend des proportions très importantes. Donc vraiment, rassurer, je pense, compte tenu des données qu'on a sur la sécurité des enfants, c'est primordial, et sur le fait que maintenant, dans les études, comme on commence à voir un peu partout, ils ne sont pas des vecteurs de ce virus, et ce n'est pas par eux que se propage.
Il ne faut pas les pointer du doigt, surtout.
Exactement.
Il faut vraiment qu'ils se sentent en sécurité et surtout pas accusés.
Est-ce qu'il faudrait éteindre la télévision, tout simplement, parfois, pour les préserver aussi de toute cette information qu'il y a autour de la crise?
Alors, je pense... il faut qu'ils aient quand même un tout petit peu accès à l'information, mais que cette information leur soit expliquée et traduite par des adultes dans des mots à eux pour les aider à comprendre. Alors, en fonction des âges, on voit des différences. Un tout petit, est-ce qu'il faut qu'il soit devant un écran? Probablement non. Mais en même temps, si tout le monde se renseigne, il faut que lui aussi en soit vigilant. Est-ce que lui aussi, les informations qui lui soient données? Donc, limiter les informations. Après, le fait de ne pas en donner du tout, ça contribue aussi à une forme de stress. Donc, je pense que je voudrais avoir un peu nuancé sur le fait
oui, on ne reste pas branché 24 heures sur 24 sur le Covid. Il y a d'autres choses qui sont très importantes.
C'est très anxiogène parfois, hein, ce que l'on entend, pour les adultes et pour les plus petits.
Et puis après, effectivement, et il faut aussi souligner le fait que notre attention, naturellement, est plus attirée vers les informations qui sont inquiétantes, stressantes, que vers les bonnes nouvelles. Pourquoi ? Ben, c'est naturel. En fait, le stress, c'est une réaction adaptative. Et elle nous sert tous les jours. La peur, elle nous permet de nous adapter au danger. Et donc, on les repère plus rapidement. Et maintenant, ce qui s'est installé, c'est une sorte d'hypervigilance. C'est-à-dire, on va glaner des informations. On se dit, tiens, il y a cette information, le Kawasaki. Ah tiens, ici, il y a plus de morts. Ah tiens. Et donc, parce que ça nous prépare au danger. Et c'est bien. Sauf qu'au bout d'un moment, quand les choses s'installent dans le temps, et c'est le cas maintenant avec ce confinement qui dure depuis d'un mois, et il faut reconnaître que nous sommes aussi bombardés d'informations, ce qui est à la fois bien parce qu'on s'y est informé, mais d'un autre côté, ça a des conséquences sur le fait de nous plonger dans un univers où il n'y aurait plus que le Covid qui existerait.
Ouais, alors qu'il y a aussi la dengue, par exemple, à La Réunion, pour ne parler que des maladies. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas penser qu'à une chose, il faut penser à tout et à tout ce qui se passe aussi dans le monde. Mais il y avait une question très précise à vous poser, docteur, et on en parlait en préparant cet entretien. Pour un cas que je connais bien, pour les petits-enfants en l'occurrence, comment parler aux enfants, aux tout-petits, ceux qui apprennent tout juste à parler, peut-être parfois à comprendre, de cette maladie ? Est-ce qu'il faut nommer la maladie ? Est-ce qu'il faut décrire les éléments en détail ? Ou est-ce qu'il faut faire des comparaisons ? C'est une difficulté pour les parents quand même en ce moment, hein, parce que les plus petits, ils ont peut-être besoin de comprendre, mais nous-mêmes, on ne sait pas comment leur dire ça.
Oui, alors merci pour cette question. C'est vrai que les informations doivent être adaptées à l'âge et pour ce qui est peut-être plus simple pour les adolescents, pour les plus petits, c'est un véritable défi. Donc oui, il faut leur parler de la maladie. Il faut utiliser les mots tels que virus en leur expliquant que c'est un microbe, c'est un tout petit animal qui circule et qu'on peut se transmettre. Il se transmet par la salive, par la gouttelette. Et en fait, que cette explication, elle serve à la transmission aussi des conseils sur les gestes barrières. Donc en lui disant, lave-toi les mains, on va apprendre ensemble pour que tu puisses se laver bien les mains, tout seul, comme un grand, et valoriser le fait qu'il se lave les mains en disant que lui, à sa manière, il contribue aussi à cette bataille contre la maladie, que la bataille contre le virus en se lavant les mains. Mais oui, je pense qu'il faut informer les enfants, il faut leur un peu en parler. Après, il faut faire aussi attention à leur imaginaire parce que parfois, ils s'imaginent, et on en discutait un tout petit peu avant, sur le fait qu'il s'agit de monstres, oui. Comme ça. Non, il ne s'agit pas de monstres, il s'agit d'un petit virus qui circule, qu'on peut se transmettre, mais dont on peut se protéger. Et si on s'en protège en se lavant les mains, en ne faisant pas, en essayant en tout cas de ne pas faire de câlins, même si on continue à aimer les personnes, les gens qui sont autour de nous, mais en gardant une certaine distance, en tout cas pour les personnes, je pense, dans le cadre familial, on imagine que c'est difficile de ne pas toucher un enfant, donc c'est bien que les parents continuent à embrasser leurs enfants, à les prendre dans les bras. Mais je pense que quand on est à l'extérieur, on garde cette distance. Et puis surtout, montrer l'exemple. Ouais. Parce que chez les plus petits, l'exemple vaut plus qu'une explication faite et en leur montrant comment nous, on fait.
Oui, c'est ça. Surtout montrer l'exemple. On va déjà devoir conclure. Docteur, alors on imagine que les consultations continuent. On l'a évoqué, c'est vrai que c'est difficile le confinement et parfois il y a des violences aussi à la maison. Et c'est pour ça que vous, peut-être, vous penchez plus pour une reprise des cours. Mais bon, avec prudence. Et ce qu'on retiendra aussi, vous l'avez dit en début d'intervention, c'est qu'il y a une étude qui vient d'être lancé, Confine à nous, du CHU Confine de La Réunion, pour connaître les impacts du confinement chez les enfants réunionnais. Et ça va pouvoir se trouver sur le site internet du CHU de La Réunion. Et puis, il y a le relais aussi sur le Facebook. On va suivre ça et on compte sur vous pour nous donner les résultats de cette étude dès que vous aurez tous les chiffres, docteur. Merci d'avoir été en direct, d'avoir répondu aux questions des auditeurs, de Johanna et moi-même. Et écoutez, on vous souhaite bon courage, docteur Michel Spodankiewicz, pédopsychiatre au CHU de Saint-Pierre. À bientôt.
Merci beaucoup.
Bientôt.
Merci, docteur.